Donc je voulais juste vous rappeler, pour vous remettre un peu dans le contexte, qu'une étoile se forme à partir d'un gros gaz d'hydrogène moléculaire. Ce sont généralement des objets qui font à peu près 30 parsecs de côté, donc 30 parsecs, un parsec c'est 3 années-lumière, 3,26 années-lumière, donc c'est à peu près 100 années-lumière de côté. C'est des disques, c'est des gaz qui s'effondrent, qui se structurent par l'instabilité gravitationnelle, qui forment des clumps, qui forment des sortes de grumeaux de matière dense, qui vont après former les étoiles. Alors les étoiles se forment, elles, généralement elles ont un disque de matière autour d'elles, et cette enveloppe circumstellaire s'aplatit par conservation du mouvement cinétique au fait de la gravité, et ça forme un disque de matière, et après on rentre dans la phase de contraction, on a vraiment une proto-étoile, et cette proto-étoile peut couler dans le monde du détérium, et arriver, une fois qu'elle arrive au brûlage de l'hydrogène, elle arrive sur ce qu'on appelle la séquence principale. Alors, comme je vous le disais hier, ce temps pour arriver sur la séquence principale où on brûle l'hydrogène varie de 150 millions d'années pour les étoiles les moins massives, voire même plus, elles sont vraiment très massives. À nouveau, il faut plus de 8% de la masse du Soleil pour pouvoir faire une étoile, à quelques dizaines de milliers d'années, avec une propagation très horizontale sur ce diagramme de Hertzsprung-Russell, qui est vraiment la carte de Michelin des étoiles. Alors, juste pour vous expliquer un peu plus clairement l'évolution des étoiles, voilà ce qui se passe pour une étoile une fois qu'elle quitte la séquence principale. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a brûlé tout son hydrogène, et pour le Soleil, on pense que c'est à peu près 10% de la masse du Soleil qui va être convertie en hélium. Donc elle va à peu près vivre 10 milliards d'années, le Soleil. Une fois que le Soleil aura vécu à peu près 10 milliards d'années, il va monter le long de la branche des jantes rouges, il va s'expandre parce qu'il n'y a plus d'hydrogène. Donc là, le cœur va se contracter. Aujourd'hui, le Soleil est à peu près 15 millions de degrés, quand il devra atteindre à peu près 100 millions de degrés pour pouvoir brûler l'hélium. D'accord ? Donc il est obligé, le cœur est obligé de se contracter pour pouvoir monter la température et la densité centrale, et du coup, par un phénomène de thermostat, quand la chaleur interne est plus intense, l'enveloppe externe doit s'expandre. Donc l'étoile gonfle. Elle gonfle, elle arrive au coin. Alors selon si l'étoile fait en dessous de 3 masses solaires, elle ne va pas pouvoir brûler l'hélium directement. Il va y avoir ce qu'on appelle le phénomène du flash de l'hélium. D'un coup, l'hélium va se mettre à brûler. Et si elle fait plus de 3 masses solaires, mais moins de 9 masses solaires, excusez-moi, c'est beaucoup de chiffres, mais entre 3 et 9, elle peut brûler directement son hélium. Après, elle est dans cette phase-là qu'on appelle la phase de la branche horizontale. Et en fait, là, on a comme une étoile, comme le Soleil maintenant, c'est-à-dire qu'on est sur une séquence principale, mais non pas d'hydrogène, mais d'hélium. Et donc, on a une étoile qui est comme une étoile, comme le Soleil maintenant, on a un gros cœur thermonucléaire d'hélium qui fonctionne normalement, comme là maintenant, on fait avec l'hydrogène. C'est juste que c'est une étoile un peu différente. Donc, on a un hélium burning, puis on a une petite couche de l'hélium d'hydrogène qui brûle. Une fois qu'on a, ben, pareil, par le même processus, converti tout notre hélium en carbone par la réaction triple alpha, trois noyaux d'hélium donnent un carbone, on se retrouve avec un cœur de carbone, avec un peu d'azote et un peu d'oxygène, et là de nouveau on est coincé, on est obligé de nouveau contracter l'étoile pour pouvoir brûler le carbone. Et pour brûler le carbone, il faut atteindre une température d'un milliard de degrés. Et donc ça, il n'y a que les étoiles qui ont à la base une masse de plus de 9 fois la masse du Soleil qui arrivent à passer la phase de la fusion de carbone. Et donc pour le Soleil, ce n'est pas le cas. On va monter, on va croître, on va arriver sur la branche asymptotique. On va avoir une étoile qui aura du brûlage en couche, d'une couche d'hydrogène, d'une couche d'hélium et un cœur inerte de carbone. Et ce cœur inerte de carbone, on n'arrivera jamais à le déclencher. Et donc il va y avoir des bulles thermiques qui vont faire éjecter l'enveloppe d'hydrogène et ça va créer ce qu'on appelle les nébuleuses planétaires. D'accord ? Alors souvent sur Internet, vous avez des gens qui confondent les nébuleuses planétaires avec les supernovas. Ce n'est pas du tout la même chose parce qu'avec une nébuleuse planétaire, vous avez donc le résidu d'une étoile qui faisait moins de 9 masses solaires. C'est ce qu'on appelle les naines blanches, qui sont donc des cœurs denses de neutrons principalement, de carbone, d'azote et d'oxygène. Et donc après, l'étoile meurt, c'est comme une sorte de phase très lente où l'étoile se refroidit petit à petit avec son cœur de carbone. Voilà une nébuleuse planétaire, la fameuse nébuleuse planétaire du sablier. On a l'impression que c'est l'œil de Sauron pour ceux qui aiment les Seigneurs des Anneaux. D'accord ? Bon, pour les étoiles plus massives, je saurai si j'ai le temps de faire ça. Alors, ici, je vais vous montrer les signations numériques que nous avons fait dans notre collaboration franco-américaine. De nouveaux diagrammes de H.P. Russell. Et je ne fais pas que des signations du Soleil. J'ai aussi mobilisé des soleils jeunes, des étoiles évoluées, des ce qu'on appelle des géantes rouges, ou des étoiles massives qui ont un cœur convectif. Comme je vous l'ai dit, quand on passe à peu près deux fois la masse du Soleil, le cœur, la convection se retrouve dans le cœur. Donc là, je vais vous montrer quelques signations numériques. Ça faisait partie d'un projet ERC, European Research Council, que j'ai eu il y a maintenant pas mal d'années, parce que j'étais un des premiers lauréats. Ça fait déjà longtemps qu'elle est finie, la bourse. Donc, voilà ce qui se passe quand on prend une sphère de gaz et qu'on la fait tourner et qu'on augmente le degré de turbulence. Donc ici, au début, on a de la convection. En bleu, ça descend. En rouge, ça monte. Et en fonction de la profondeur, trois profondeurs, et je monte la vitesse radiale et j'augmente le degré de turbulence. Et vous voyez que ça devient de plus en plus complexe. Alors, je vais vous montrer le dernier calcul que j'ai fait avec du TempRace. C'est-à-dire, TempRace, c'est le grand centre de calcul européen qui permet d'avoir des 50 millions d'heures de calcul. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 8000 heures par an, à peu près. Donc, si vous avez 1000 cœurs, 1000 processeurs qui tournent 24 heures sur 24 pour vous, pour vos calculs, vous dépensez 8 millions d'heures. Donc, quand TempRace vous donne 50 millions d'heures, ça veut dire que vous dépensez à peu près, vous calculez en permanence avec 6000 cœurs de calcul pour faire votre simulation numérique. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc du coup, vous voyez que ça correspond à plusieurs millénaires si vous utilisez qu'un seul processeur. Donc, les simulations que je vous montre, il faudrait des milliers d'années pour les faire si on n'avait qu'un seul cœur. Pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, voilà ce que donne une simulation à très haute résolution, 4000 cubes, hein, donc ça veut dire. Vous avez quand même à peu près l'équivalent de 64 milliards de points de maille quoi, donc, pour décrire votre sphère. Donc, le film n'a pas marché, pourquoi il ne marche pas ? Ah, voilà. Donc là, vous voyez la turbulence, petite échelle, c'est le champ de température que je vous montre. Et vous voyez tous ces petits points, ce sont des sortes de cyclones que vous avez dans la turbulence de votre convection. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus structuré que ce que je vous ai montré avant dans les images précédentes du quatrième laminaire, de ce qu'on appelle les cellules bananes. Là vous avez la très haute résolution, vous avez toujours la rotation différentielle, vous la voyez assez clairement. Je vais relancer le film. Voilà. Donc là on voit bien la rotation différentielle du Soleil aller vers l'équateur. À droite et vers les pôles plutôt à gauche.
Sacha, je n'avais pas pensé à ça avant. Comment la condition limite en surface est.
Alors, les mariages. Je suis à 99%, donc les 1% qui sont très difficiles à faire, je ne sais pas. Mais c'est très difficile. Généralement, on passe à des codes locaux pour traiter le transfert de rayonnement et le fait que la granulation est un phénomène convectif qui est ce qu'on appelle un anneau de Pété de 1. Les clés, c'est l'équivalent du Reynolds, mais avec la diffusité thermique. Et en fait, on a presque un équilibre entre transport convectif et transport radiatif. Et donc, les granules ont une structure un peu spéciale. Avec cette simulation, malgré le fait que je sois à très haute résolution, je m'arrête à une harmonique sphérique à peu près de 2500. Et pour pouvoir modéliser les granules sur une sphère, il faut aller à 4000. Donc, on y arrivera. En 2020, je pense que j'aurai des simulations globales qui auront peut-être les granules dessus. Tu vois, c'est très 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 lourd à faire comme calcul et il faut là, je pense qu'il ne faudra pas que je tourne avec 6 000 ou 10 000 cœurs, mais plutôt avec 100 000 ou 100 000, tu vois. Donc, je vous passe ça. Donc, les résultats, qu'est-ce que ça donne ? Et voilà une coupe de l'héliosismologie. Alors, je ne vous ai pas du tout parlé de l'héliosismologie, les physiciens stellaires ont cette chance que les étoiles génèrent des ondes acoustiques en permanence. Donc, on n'a pas besoin de créer avec des sismographes, des explosions, mettre des sismomètres pour les détecter. Le Soleil le fait en permanence, ces granules qui explosent à la surface génèrent des sons. Ils sont tout le temps en train de crier quand ils arrivent à la surface, ils émettent des sons, et donc ces ondes se propagent. Et le Soleil est une énorme cavité résonante dans laquelle, grâce à ces ondes, on peut aller inverser plein d'informations, y compris par effet Doppler, les mouvements fluides. Donc là, j'ai un couple méridien, on a une sphère. Vous la coupez en deux, et l'héliosismologie nous révèle que la rotation différentielle est rapide à la surface, après l'équateur, mais pas uniquement à la surface, à toute profondeur, et lente, et après qu'il y a une forte zone de transition, vers une rotation quasiment solide du cœur radiatif du Soleil. Et ça, cette zone s'appelle la tachocline. Et Roxane a un poster sur la tachocline pour aller voir demain quand on se retrouve. Et ça, c'est une simulation numérique. Vous voyez qu'on arrive à reproduire l'équateur rapide, les pôles lents. Alors, bon, parfois, c'est plus utile que ça. Il faut regarder les paramètres. Donc, là, c'est ce qu'on appelle la circulation méridienne. Pour les géophysiciens, c'est ce qu'on l'équivalent de cellules d'Adélie, si vous voulez, entre l'équateur et vers l'autre latitude. Et pendant très longtemps, nous, les théoriciens, on prédisait les circulations méridiennes multicellulaires. Et les sismologues nous disaient non, vous voyez, c'est une seule cellule. Et maintenant, les sismologues arrivent à nous dire oui, vous êtes peut-être raison, il y a peut-être plusieurs cellules. Donc, parfois, la théorie peut être en avance sur l'observation ou vice versa. Alors là, je vais vous montrer un calcul. Qui était un calcul que j'ai publié il y a quelques années, qui est, pour vous donner une idée du Soleil en 3D, qu'on peut modéliser de nos jours, et qui sont donc, j'espère que le film va marcher. Pourquoi j'ai des problèmes de film comme ça alors que j'avais fait exprès de ne pas l'avoir. Donc je vais vous montrer la version moderne. Donc ce film que je vous ai montré à très très haute résolution, voilà quand je pars, que je fais 85% du Soleil, donc la zone de convection. Là, je montre le champ d'entropie, et voilà les ondes de gravité qui sont générées par la turbulence convective. Donc là, vous avez ces panaches qui sont froides, qui descendent, qui tapent le haut de la zone radiative. Ici, c'est en ligne pointillée, c'est la base de la zone convective. Et normalement, j'espère que ça va marcher. Voilà. Donc, vous voyez les ondes. Alors, la première chose que vous devez remarquer, c'est que ces ondes vont vers l'extérieur. Alors, ça devrait vous intriguer, parce que vient de me dire que c'est des panaches turbulents qui viennent taper. Alors comment c'est que ça génère des ondes qui vont à l'extérieur? Parce qu'en fait, c'est la phase, vous voyez les ondes là, et les ondes de gravité ont cette propriété que leur vitesse de phase et leur vitesse de groupe sont perpendiculaires, enfin la composante radiale, et donc on voit les fronts d'ondes aller vers l'extérieur, mais l'énergie va bien vers l'intérieur. Et donc là vous voyez la rotation différentielle, vous voyez la turbulence très petite échelle de la surface, qui vient se fusionner avec des sortes d'arbres de flots descendants qui viennent, qui créent des panaches qui viennent taper le haut de la surface et générer ces ondes. Donc, bon, on est en train d'analyser ces ondes, on essaie de les trouver dans le Soleil. Alors, je fais un petit aparté sur les ondes de gravité, les ondes pour que vous voyez, il y a deux types d'ondes dans le Soleil, il y a des ondes acoustiques. Là, donc là, c'est une simple théorie du rayon pour on résout les équations de Conall. Donc là, vous voyez des ondes acoustiques qui sont de haut degré et puis les ondes acoustiques de bas degré qui permettent d'aller sonder l'intérieur du Soleil. Et moi, les ondes dont je vous parle, c'est les ondes de gravité. Ce sont ces ondes-là qui sont générées par l'assimilation et qui sont uniquement piégées à l'intérieur. Vous voyez, elles forment ces sortes de rosettes quoi, et qu'elles sont très caractéristiques. Voilà. Donc ça, grâce à ces ondes, on arrive à progresser pas mal. Les ondes de gravité, on ne les a pas encore détectées dans le Soleil, mais on les a déjà détectées dans notre étoile. Alors maintenant, j'en viens au cycle solaire. C'est important, hein. C'est ce qui se dit. Donc en haut, vous voyez ici un diagramme papillon. Depuis 1975, donc en 2015, ça fait 40 ans qu'on suit assez bien les taches solaires. Et donc vous voyez la propagation de ces ailes, comme dans le film où la dame avait déplié son gros document là, en disant, vous voyez, c'est ce battement et cette ouverture et fermeture des ondes. Donc là, vous voyez qu'il y a propagation des taches solaires vers l'équateur et renversement de la polarité du chapeau polaire, de la partie polaire du champ magnétique. Et donc, vous voyez qu'on a eu déjà une succession de cycles et actuellement, on est dans le cycle 24. Alors ici, je vous montre une image qui fait 60 000 km de côté, hein, donc déjà plusieurs planètes Terre. Et vous voyez une tache solaire qui fait à peu près 30 000 km. Donc ici, c'est 60 000 km de côté, chaque petit trait fait 8 km. Ici, c'est de nouveau la granulation, je vous avais dit que ça faisait à peu près la taille de la France. Donc, vous voyez, là, on a une tache solaire, et vous remarquez quelque chose de très particulier, c'est que quand les taches solaires sont très intenses, elles ont une partie sombre et une partie un peu irisée. Alors, ici, cette partie irisée, en espérant que mon filon fonctionne, vous allez voir un peu le comportement de... Ça, celui-là. Oui, je vais. C'est le bouton de vue. Ben, ça, les pics sus très vite. Donc là, vous voyez le mouvement convectif, je vais remettre le film... Donc, vous voyez la convection se déplacer avec la granulation, le champ magnétique, les points brillants, c'est le champ magnétique, et ici, vous voyez. Alors, quand on fait un magnétogramme, qu'on regarde l'effet Zeeman de rayons, on voit deux phénomènes dans le Soleil. On voit cet effet sec-poivre,
cet effet Saint-Poivre, c'est vraiment la turbulence MHD dont j'ai parlé hier, c'est-à-dire la convection génère du champ magnétique à toutes les échelles. Et là, vous voyez cette bande d'activité. Et vous pouvez remarquer que la polarité en bleu, c'est moins, en rouge, c'est plus, elle est inversée entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Là, on a le bleu devant et le rouge derrière, ici, on a le rouge devant et le bleu derrière. Et ça, on comprend assez bien, c'est lié au phénomène de dynamo. Alors, ce qui vient aussi en plus du phénomène de dynamo, c'est le cycle solaire. Oh, excusez-moi, je vais mettre à jour mon slide. Je pensais que ça avait été fait déjà. Donc là, vous voyez le comportement du soleil, ça, on a déjà vu beaucoup de films. Et donc, l'activité du soleil est modulée avec 11 ans. Donc, ça veut dire que tous les 11 ans, le soleil a une sorte de tache de rousseur qui lui pousse sur le visage un peu et qui disparaît. Et là, vous voyez l'activité du vent solaire et des éruptions CME, des éruptions de masse. Donc, comme je vous disais à Claude hier, une éjection de masse, comme ça, ça représente à peu près 18 à 16 grammes de matière. Donc, voilà le cycle en rayon X. Ce soleil est beaucoup plus brillant en X quand il est actif et il est très sombre en X quand il est inactif. Alors, le processus de renversement du champ magnétique au niveau du pôle, donc c'est, vous voyez, vous avez un cornet polaire plus, un cornet polaire moins, et vous avez des structures magnétiques qui apparaissent avec une différence de polarité. Et au début du cycle, les tâches, la partie arrière des tâches qui apparaissent, qui sont des structures bipolaires avec deux pôles, sont de signes opposés avec le cap polaire au début du cycle de 11 ans. Et à force de migration de cette polarité négative vers la polarité positive du pôle et inversement dans le sud, vous petit à petit annulez le champ magnétique à la surface. Alors voilà le renversement du cycle solaire sur les trois derniers cycles, où on voit qu'on part, il met à peu près 2 ans pour se renverser le cycle solaire. Il fait parfois des excursions un peu rigolotes, des boucles, tout ça. Et ça, c'est, on voit l'évolution du cycle du soleil. Et un truc qu'on a fait récemment dans un papier de 2012 avec mes collègues américains, en prenant ces données, on s'est intéressé à regarder l'évolution du champ magnétique, bon, le dipôle, ça on vient de le voir, mais surtout plus important, le rapport. Et ça vient de mes échanges avec mes collègues géophysiciens, où j'avais vu un papier de Léonard en 2007, c'est le séminaire qu'il avait donné, ce Carlo Lage l'avait invité, et donc il avait montré qu'il y avait peut-être, selon les excursions ou les renversements dans la Terre, un changement du rapport entre la force du dipôle et du quadrupôle. Et donc, alors, tout le monde comprend ce qu'est un dipôle et un quadrupôle ? Vous voyez ce que c'est ? Non, vous ne savez pas. Donc, alors, le dipôle, c'est une forme très simple, c'est comme des oreilles de Mickey. Et le quadrupôle, c'est juste là deux oreilles là, de chaque côté. D'accord ? Et c'est le multipôle, on peut décomposer le champ magnétique comme ça, en nombre d'oreilles de Mickey. Oui, exactement. Oui, il y a deux pôles plus, deux pôles moins. Donc, quand je vous montre l'axe magnétique du Soleil dans les bascules, on a reprojeté ça sur le dipôle, pour savoir un axe, pour avoir un seul axe. Donc ici, on fait le rapport entre le dipôle et le quadrupôle, donc on s'intéresse à ça. Et vous voyez qu'au début du cycle solaire, on est plutôt dipolaire, puisque le rapport est très faible. Et puis quand on arrive vers le maximum du cycle, on devient dominant par le quadrupôle. Donc en fait, le Soleil devient quadrupolaire. Et alors, je voulais vous montrer ça, mais c'est un peu trop compliqué. On peut le comprendre pour des histoires de symétrie, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc voilà, rappeler les cycles solaires et une vue. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des enregistrements historiques en science le plus long qui existe, l'enregistrement des tâches solaires. Ça a commencé en 1609 avec Galilée, et il y a eu un début d'observation, et puis d'un coup, il n'y a pratiquement eu plus de tâches solaires. Donc, on n'a pas vraiment compris à l'époque ce qui se passait, et le soleil rentrait dans un grand minimum d'activité. Et après, le cycle de 11 ans est revenu, on a commencé à numéroter à peu près ici. Et donc, on compte les cycles, c'est pour ça qu'on en est arrivé au cycle 24 aujourd'hui. Alors, grâce au beryllium 10 qui est capturé dans les ice cores, dans les carottages de glace en Antarctique ou en Arctique, et le carbone 14 qui est capturé dans les arbres, alors le temps pour être capturé n'est pas le même, 30 ans pour l'arbre, les arbres et 2 ans seulement, on est arrivé à remonter à plus de 10 000 ans en arrière, et a montré que le cycle de 11 ans existait il y a presque plus de 10 000 ans. Donc là, je vous fais juste un zoom sur une période de 1000 ans, et où on est actuellement, on est ici, et puis on a le minimum de Mondair, le minimum de Storer, de Wolf, on a eu le maximum médiéval, un autre minimum, et on voit que les grands minimums d'activité peuvent arriver tous les 300 ans. Et actuellement, on peut se poser la question. Alors, il y a une chose que je vais vous montrer, si on ne va pas y arriver, c'est que vous voyez qu'en plus de ces grands minimums d'activité, on a une modulation à peu près de 100 ans de l'activité du cycle. Et c'est ce qu'on appelle le cycle de Gleisler. Et ce cycle de Gleisler, comme écrit ici, on est en train, nous, en ce moment, le Soleil, dans le cycle 24, d'arriver à la fin du cycle de Gleisler actuel. Savoir que le Soleil est beaucoup plus actif au cycle 19, donc dans les années 50-60. On avait un Soleil beaucoup plus actif, deux fois plus actif que ce qu'il a été récemment. Donc il est vraisemblable qu'actuellement on est en train de finir le cycle de Gleisler actuel. Et pour les prédictions, je pense que ça va nous aider, parce que c'est une sorte de variation séculaire, en quelque sorte. Peut-être pas séculaire, on va dire, d'échelle intermédiaire. Et donc voilà, on peut faire des simulations de convection, on met maintenant du champ magnétique, et donc voilà une dynamo. Et on met du champ magnétique, et puis la convection prend ce champ magnétique, comme je l'ai expliqué un peu hier, et les tire. Et donc on peut regarder l'énergie, la croissance de l'énergie magnétique. Donc l'énergie magnétique croît, et puis après elle sature par saturation non linéaire. Donc je vous passe les détails, et je vous ai montré, j'espère que mes fils fonctionnent. Ils ne fonctionnent pas, bon, décidément il y a vraiment un problème avec cet ordinateur. Voilà, donc je vous montre ce film-là, c'est pas grave, hein, des films j'en ai plein. Donc voilà une vue 3D de la polarité du champ magnétique toroïdal. Alors en bleu c'est négatif et en rouge c'est positif. On va faire une coupe à travers et vous allez voir, à un moment on va s'arrêter au niveau de l'équateur et vous allez voir les mouvements, enfin, j'espère que c'est le cas. Je pensais que c'était le cas, donc ça doit être une fine différence. Hein. Et on voit normalement l'enroulement d'une ligne de champ magnétique et le comportement très turbulent de la génération du champ magnétique dans la zone de convection. Après, je crois qu'on va basculer et rentrer dans la sphère pour avoir un peu une idée de la complexité du champ magnétique. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ce film-là où on rentre à l'intérieur de la sphère. Quoi. Voilà, et là on voit la complexité du champ magnétique. Donc peu importe, donc voilà une courbe, une reconstruction des lignes de champ magnétique, ça vous avez vu dans le film d'hier. Donc on trace les lignes de champ magnétique. Une ligne de champ magnétique c'est défini comme un petit segment qui est parallèle au champ local, au vecteur local du champ magnétique. Donc vous voyez qu'on a des boucles magnétiques globales et des structures internes très complexes. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a du champ magnétique? Ben, quand on a du champ magnétique, on a une rétroaction du champ magnétique sur la rotation différentielle, parce que la rotation différentielle qui tire le champ magnétique, qui fait une partie essentielle de l'effet dynamo, et ben forcément le champ magnétique résiste et oppose une sorte de tension qui fait que la rotation différentielle soit moins intense. Alors, il y a d'autres collègues dans le monde qui font des simulations globales du Soleil, et en particulier le directeur de thèse de Roxane, Paul Charbonneau, qui est un des grands spécialistes mondiaux avec qui on collabore beaucoup, qui a été un des premiers à avoir une simulation numérique qui avait des... Excusez-moi. Le cycle... Alors, ils ont trouvé une dynamo qui avait un cycle de 40 ans, pas de 11 ans, mais enfin, elle avait déjà des comportements qui étaient réguliers, c'était dynamique, turbulent, et on voit là, c'est le groupe en fonction du rayon, avec un peu une zone stable, donc la zone de convection puis la zone stable, au cours du temps, et on voit la migration du champ magnétique venir se localiser à la base de la zone convective et créer des structures de champ magnétique intenses qu'on pense être à la source des zones actives. Alors, nous, on a aussi dans notre équipe obtenu un modèle un peu similaire. Et on a d'abord commencé par obtenir ce qu'on appelle des rubans magnétiques très intenses. Et très longtemps, dans la théorie, les gens disaient que le champ magnétique allait être expulsé de la convection, qu'on n'arriverait pas à avoir des rubans magnétiques à l'intérieur de la zone de convection. Et en fait, nous, on a démontré que le côté non compact de ces structures qui sont très filamentaires permet de s'accommoder de la turbulence. Et donc, on a ces rubans magnétiques qui existent et on a obtenu, nous aussi, une dynamo cyclique alors dans des paramètres un peu différents de ce qu'avait fait Paul, et on est arrivé à avoir un cycle de quelques années, de 3-4 ans. Donc on est en train de converger, soit par le haut, soit par le bas, vers 11 ans, mais c'est pas facile. Hein. Puis, quand on n'est pas exactement au paramètre du vrai soleil, c'est pas surprenant qu'on n'ait pas exactement le même cycle. Donc on voit bien la propagation vers l'équateur et une branche polaire comme dans le soleil. Donc c'est un papier qui a été publié en 2015. Et ce qui a été très fort dans ce papier, c'est qu'on a obtenu un minimum d'activité. Donc c'était la première fois que dans une simulation 3D, on avait non seulement établi un cycle magnétique régulier, mais en plus ce cycle magnétique passait par un minimum d'activité et on ressortait. Donc c'était une publication et on a bien sûr regardé le rapport entre le dipôle et le quadrupôle. Et comme dans le Soleil, on voit qu'on rentre dans des grands minimums d'activité quand le mode quadrupolaire peut être dominant et vient perturber le cycle régulier de la dynamo. Alors, une autre chose qu'on a pu faire récemment, c'est qu'on a regardé dans ces rubans magnétiques, ici je vous montre des isosurfaces de ces rubans magnétiques entre plus ou moins 30 degrés en longitude et plus ou moins 30 degrés en latitude, et on a mis trois isosurfaces. 10 kilogauss qui correspond à 1 tesla, 2,5 tesla et 4 tesla, d'accord, ou 4 kg, 40 kg, 45 kg. Et vous voyez que les structures de champ magnétique très intenses sont très concentrées. Et on a regardé la distribution, on peut pas, je vais pas vous embêter, mais les distributions, dans le cas S3, qui est celui qu'on présente ici, est très étendue, elle est très non gaussienne, la distribution des événements. Et on pense que ces bundles de champ magnétique, c'est vraiment ces concentrations de champ magnétique, sont à l'origine de l'émergence. Et pour la première fois, là aussi, on est arrivé à voir des boucles magnétiques qui se sont créées dans une simulation numérique où on voit qu'à l'intérieur de ce ruban magnétique très complexe qui s'adapte en fonction de la turbulence des flots convectifs, les petites concentrations de champ magnétique qui sont au-dessus de 40 kilogauss de 4 tesla deviennent flottantes et forment des boucles oméga qu'on pense vont émerger et donner des taches solaires. Donc, le modèle global du Soleil aujourd'hui, voilà comment on peut le résumer. On a une zone convective très turbulente où on crée du champ magnétique à petite échelle et à toutes les échelles, donc dans tout un spectre, comme je vous l'ai dit, de turbulence, de magnétique. Et ce champ magnétique est amené à la base de la zone convective où on a un très fort cisaillement de rotation qu'on appelle la tachocline. Donc à la base et dans la tachocline, il y a un très fort cisaillement qui organise le champ magnétique sous forme de rubans magnétiques. Ces rubans magnétiques se déstabilisent et forment des structures bipolaires qui peuvent émerger à la surface du Soleil ou être recyclées dans la zone convective. En même temps, cette convection qui transporte le champ magnétique génère des ondes de gravité qui se propagent dans tout le Soleil. Voilà à peu près au jour d'aujourd'hui où on en est notre convection. Alors si vous êtes intéressé par le sujet des étoiles actives et de vivre autour des zones, on organise un grand symposium au Brésil en 20 octobre 2016 sur les organisateurs où on va parler de plein de phénomènes dont je viens de discuter. Alors combien de temps il me reste là?
On est à 11h30.
1h15. Alors je vais changer de sujet. Je ne peux pas vous parler des autres étoiles. Je voulais vous parler éventuellement des trous noirs et tout ça, mais je n'ai pas le temps. Je vais juste vous montrer un film. Je vais passer les aspects... juste vous expliquer deux choses. Donc, une étoile massive, comme je vous l'ai dit, donne des étoiles, des naines blanches. Le Soleil finira comme une naine blanche. Et ce qui est très particulier pour les naines blanches, c'est plus leur masse est élevée, plus elles sont petites et compactes. Mais elles ne peuvent pas dépasser 1,4 masse solaire. C'est pour ça qu'au-delà de 9 masses solaires, le résidu des étoiles ne sont plus des naines blanches, parce qu'on dépasse ce qu'on appelle la masse de champ écart et l'étoile s'effondre et forme une étoile à neutrons. Donc, le cas d'une étoile à 20 masses solaires est différent d'une étoile à. On passe par une supergéante qui brûle du cœur, et puis après, on passe toute la séquence des brûlages des éléments chimiques, et on finit en supernova. Alors, par exemple, on va, comme pour le Soleil, brûler l'hydrogène, puis après, allumer l'hélium, brûler l'hélium, puis arriver, se contracter, déclencher le carbone, le brûlage du carbone, et puis, etc., monter. commence à créer ces espèces de structures en pelure d'oignons d'étoiles. Et voilà ce qui se passe pour une étoile qui fait plus de 25 masses solaires. On se retrouve avec un cœur à l'intérieur de l'étoile qui est en pleine pelure. Et la fusion du carbone ne dure que 600 ans, celle du néon que 1 an, celle de l'oxygène que 6 mois, celle du silice que 1 jour. Et à la fin, on se retrouve avec un cœur inerte de fer. Et on a cette structure en pelure d'oignons de l'étoile. Alors on peut s'intéresser à savoir... pour ces étoiles qui font entre 9 et 250 masses solaires, masse initiale, combien forment, alors au début on forme des étoiles à neutrons, et certaines, si le cœur dépasse une masse qu'on appelle la masse de d'Oppenheimer-Volkoff, qui est aux alentours de 3-4 masses solaires, si cette masse est dépassée, on crée un trou noir. Alors un trou noir, que ça soit une étoile à neutrons ou un trou noir, l'étoile finit comme en supernova, et voilà ce que c'est une supernova. Avant, on ne voit rien et d'un coup, on voit un truc énorme. Et une supernova peut être aussi brillante que le cœur d'une galaxie. Quand on la voit dans une galaxie, c'est impressionnant. Il y a généralement une supernova tous les 100 ans. Bon, mais comme il y a des milliards de galaxies, on en voit beaucoup. Et donc là, je ne sais plus ce que c'était. Je crois qu'on compte zoomer sur une structure de supernova. Et là, je crois que j'avais fait un lien. J'espère qu'il marche, celui-là. Et... on avait converti, j'espère que ça a marché. Et voilà. Donc, je vais vous mettre ça. C'est un peu des films illustrés, hein, c'est pour. Alors, bien sûr, dans l'espace, il n'y a pas de son, mais il y a une onde de choc qui se crée. Et voilà le résidu de supernova, qui est un gaz en expansion qui. Du coup, comme vous l'avez compris, cette étoile est très riche en éléments, et donc vous avez compris que pour aller au-delà des éléments créés par Big Bang, on est obligé de dépendre des étoiles. Donc tout ce qui est au-delà du lithium, beryllium, bore, donc hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore, a été créé dans les étoiles. Donc nous sommes tous de la poussière d'étoiles, et on peut créer jusqu'au fer. Parce qu'après, quand on regarde, ce qui sépare la fusion de la fission, c'est le fer. On peut fusionner tous les éléments jusqu'au fer et on peut fissionner tous ceux qui viennent de l'uranium jusqu'au fer. Parce que sinon, on n'a pas assez d'énergie. Le fer, on peut ni fusionner ni fissionner. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement lié, son royaume est tellement lié qu'il n'y a pas d'énergie à récupérer. Et donc, on ne peut pas fusionner le fer. Donc, on s'arrête au fer. Et donc, l'étoile, c'est ça qu'elle explose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fusionner le fer parce que c'est endothermique, ça ne donne pas d'énergie. Donc on n'arrive pas à le faire. Alors comment, vous allez me dire, comment on crée des éléments chimiques au-delà du fer ? Et bien pour créer des éléments chimiques du fer à l'uranium, on le fait dans des chocs de supernova qui les explosent, parce que là on a des éléments lourds comme du fer, comme du silice, comme du magnésium, et comme il y a cette onde de choc, et qu'il y a beaucoup de neutrons qui se baladent, il y a un phénomène qu'on appelle de spallation, c'est-à-dire qu'il y a des neutrons énergétiques qui viennent enrichir les noyaux, et on monte la masse atomique des atomes. C'est comme ça qu'on arrive après à créer des éléments chimiques du fer jusqu'au registre de radium. Oui ? Oui, vas-y, vas-y.
Du coup, pour avoir une étoile de deuxième génération, on est obligé de passer par le supernova ou on peut récupérer de la matière ?
Ah oui. Ce qu'on appelle les étoiles de population 3, qui sont les étoiles, alors, les noms astronomiques parfois, c'est vraiment bizarre, c'est très historique. Et les étoiles de population 3, c'est une première génération d'étoiles qui est composée principalement que d'hydrogène et avec un tout petit peu d'hélium. Ce sont des étoiles qui ont une vie qui est complètement différente des étoiles métalliques qu'on connaît maintenant. Alors les astrophysiciens appellent métaux tout ce qui n'est pas hélium ou hydrogène. Donc même le lithium, le bore, le carbone, tout ça, on appelle ça métaux. Et disons qu'avec le Big Bang, tu vas jusqu'au bore, beryllium bore, mais au-delà du bore, tout ce carbone, oxygène, azote, au-delà, tout ça, ça a été créé par des explosions. Par les premières générations d'étoiles jusqu'au fer, et du fer à l'uranium par les explosions massives, des étoiles massives. Donc il y a un enrichissement galactique, et c'est pour ça que les étoiles sont importantes, parce qu'elles nous permettent de comprendre l'histoire de l'enrichissement galactique, des évolutions par plusieurs générations. Et comme vous avez vu, les étoiles très massives vivent très peu longtemps, donc en quelques dizaines de millions d'années, tu arrives à commencer à enrichir. Donc, tu as des supernovas, et tu peux même avoir des hypernovas qui envoient des rayons gamma. Et il y a même des gens qui se sont posé la question s'il n'y a pas ce qu'on appelle la zone habitable galactique.
C'est-à-dire que au début, dans les galaxies, quand elles sont très jeunes, il y a tellement de phénomènes énergétiques et de rayons gamma qui se baladent dans la galaxie que ça éradique tout développement de molécules complexes et que donc il faut attendre que la galaxie se calme petit à petit, qu'elle ait un peu moins de rayons gamma qui la parcourent pour que les choses puissent commencer à s'organiser, se complexifier avec plein d'éléments chimiques qui ont été aussi enrichis. Et là, petit à petit, tu peux construire des structures plus en plus complexes et peut-être arriver à avoir en tout cas les ingrédients qui permettent de développer la vie sur les planètes héliériques. Mais après, il y a, comme j'en parlais un petit peu, l'impact de la plate, de l'étoile sur la planète. Donc, moi, dans mon laboratoire, on développe une activité sur la zone habitable pour comment caractériser les zones d'habitabilité autour des étoiles. Donc, je... Donc, je reviens à nos moutons, deux secondes. Donc, un des résidus, donc, du coup, c'est... voilà, ça fait une étoile à neutrons. Alors, les étoiles à neutrons s'appellent aussi des pulsars, quand ils tournent très vite et ils ont un champ magnétique. Et voilà, par exemple, le pulsar de la nébuleuse du crabe. Et pour les trous noirs, juste pour finir, il faut savoir que les trous noirs ont un horizon qu'on appelle l'horizon de Schwarzschild, qui est de l'ordre de, qui se calcule comme ça, de GM sur C carré, qui fait à peu près 3 km, 3 fois la masse du résidu sur M sol. Donc comme généralement on n'a pas de trous noirs qui font moins de 3-4 masses solaires, ça fait de l'ordre de 10 km le rayon d'un horizon. Alors, voilà, donc quand elles sont au-dessus de 9 masses solaires, entre 9 et 25, elles finissent en étoile à neutrons, et au-delà de 25, elles finissent généralement en trou noir. La seule difficulté avec ça, c'est que les étoiles ont un grand vent, notamment, je vais en parler tout de suite, elles perdent de la matière et de la masse par des vents, et dans les phases très avancées, comme le haut de la phase de la géante rouge, le haut de la phase de la branche asymptotique, elles perdent beaucoup de masse. Elle peut avoir des vents très violents qui font que parfois tu pars avec une étoile qui a beaucoup de masse, pourrait devenir un trou noir, mais a tellement perdu de masse dans sa vie que finalement elle ne devient pas. Enfin, on parle de quelques masses solaires, donc généralement si elle a vraiment, si elle fait 40 masses solaires, elle peut être arrivée à 35 ou 32, mais elle sera encore suffisamment massive. Ah bah si, je ne sais pas.
Et qu'est-ce qui fait alors la masse, la distribution des masses des étoiles?
Alors c'est ce que j'ai montré dans un des premiers slides avec lequel j'ai repris, ce qu'on appelle la distribution de Salpeter. C'est on a une distribution des étoiles. Initialement, quand les gaz moléculaires, hydrogène, s'effondrent, ils créent une distribution de masse. Et il est beaucoup plus facile de créer des petites étoiles que des étoiles massives. Donc, comme je disais, pour 200 étoiles M de petite masse, on crée plus d'une seule étoile massive entre 10 et 150. Donc, tu vois, une distribution assez importante. Donc, du coup, les étoiles massives sont plus rares. Alors là, après, la métallicité, c'est-à-dire l'enrichissement de la galaxie, du gaz, dépend. Et puis tu sais, on crée d'autant plus d'étoiles qu'on a du gaz. Or, l'évolution des galaxies montre qu'enrichissant les galaxies perdent leur gaz. Et si elles perdent leur gaz, parce qu'ils se concentrent comme des étoiles, quoi, si petit à petit elles perdent leur gaz, et donc du coup elles génèrent de moins en moins d'étoiles. Donc la fin d'une galaxie, c'est un truc un peu triste, c'est que des naines blanches, des étoiles à neutrons, sont des étoiles très lumineuses qui sont en train de se refroidir, et des naines, petites étoiles qui durent très très longtemps, mais qui sont très lumineuses. Donc tu vois, les belges, les super géantes bleues, comme Rigel dans la constellation d'Orion, tout ça, c'est des étoiles qui sont dans l'absolu amenées à être de moins en moins présentes dans l'univers. Alors, juste pour vous montrer un film, ça c'est un voyage, le voyage à travers un trou un trou noir de Reisner-Nordström. Il est important de savoir qu'il y a plusieurs types de trous noirs. Il y a le trou noir classique de Schwarzschild, il y a le trou noir de Kerr qui est en rotation, le trou noir de Reisner-Nordström qui est chargé, et le trou noir de Kerr-Newman qui est en rotation et chargé. D'accord ? Et donc, leur masse, leur moment cinétique et leur charge, selon le cas considéré, suffit à les caractériser. Alors, une rotation et une charge non nulle complexifient la métrique du trou noir, c'est-à-dire sa géométrie et ses propriétés. Il apparaît alors un deuxième horizon, on parle d'interne et externe. Et la notion de trou noir de trou de vert, de trou blanc apparaît. Cependant, l'instabilité à l'horizon intérieur détruit généralement le tunnel. Hein. Donc là, les travaux actuels des astrophysiciens qui s'intéressent au trou noir disent, alors là, c'est un peu bizarre. Et ici, normalement, alors oui, j'espère que ça va marcher parce que je l'ai relié. Donc on peut passer par là. Donc ici, vous avez le cas d'un horizon, dans un cas d'un trou noir de Schwarzschild classique où il y a un seul horizon. Alors qu'est-ce que c'est l'horizon du trou noir? C'est la vitesse de la lumière ne peut pas s'en échapper. Vous savez qu'il y a une vitesse de libéralisation quand la Terre c'est 1,2 km par seconde, le Soleil c'est 270 km par seconde, pour s'en échapper, la gravité. Bon, mais bon, pour les trous noirs, l'horizon c'est au-dessus de 310 km par seconde, donc on ne peut pas le faire. Donc on est piégé à l'intérieur de cet horizon. Et il y a aussi en plus des problèmes de stabilité des orbites. On ne peut pas se mettre à n'importe quelle orbite autour d'un trou noir parce qu'après des problèmes d'instabilité. Mais quand on a un deuxième, quand le trou noir est chargé ou tourne sur lui-même, il y a un horizon interne et un horizon externe. Et quand on approche de l'horizon interne et pas externe, on peut, c'est ce qu'on appelle ces histoires de trous de ver. Voilà. Donc je vais m'arrêter avec ça. Et je vais passer à une autre présentation qui est de discuter un peu plus la physique du Soleil. Et là, je vous ai fait une petite aparté sur les étoiles, parce que je vous dis que l'évolution stellaire vous intéressait.
J'ai
juste
une question. Je
ne
suis pas sûre d'avoir compris, parce qu'on dit que les étoiles, elles meurent dans des nébuleuses ou dans des nébuleuses planétaires.
C'est les résidus. L'enveloppe d'hydrogène qui a été expulsée par un pulse thermique, et au centre, on a une naine blanche.
Donc ça crée une nébuleuse planétaire.
Voilà. La nébuleuse planétaire, c'est la naine blanche avec son enveloppe de gaz autour. C'est pour les étoiles qui font moins de masse solaire.
Et du coup, moi, dans ma tête, les nébuleuses, c'est aussi des lieux de formation d'étoiles.
Alors, parce que le lieu de nébuleuse planétaire a été très mal choisi. Ce que je dis, on a beaucoup de choses à Donc, ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire n'est absolument pas un endroit où il y a une planète, malheureusement. C'est en fait le résidu d'une étoile qui faisait moins de masse solaire dans lequel il y a une naine blanche au centre. D'accord ? Et après, tu as les résidus, les rémanents de supernova qui ont au centre soit une étoile à neutrons, soit un trou noir. D'accord ? Donc, dans tous les cas, tu as toujours une sorte d'enveloppe d'hydrogène qui entoure un objet très compact au centre. Et la compactification de l'objet au centre dépend de la masse initiale de l'étoile. D'accord ? Est-ce que c'est un peu plus clair ?
Et quand on voit une nébuleuse dans le ciel, par exemple, c'est pas un lieu de formation des étoiles ?
Non, généralement, quand tu vois les lieux de formation des étoiles, c'est généralement plutôt des amas jeunes, des amas d'étoiles jeunes, comme par exemple les Persées, le Taureau, ou dans la ceinture d'Orion. Là, tu as des clumps, ce qu'on appelle les piliers de la création, la fameuse image de Hubble, c'est là, les piliers de la création où tu as des gaz qui se structurent. Donc c'est plutôt comme ça les zones de formation d'étoiles.
Merci.
Oui.
Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'activité magnétique du Soleil et son activité thermique?
Alors, oui, dans le sens que la convection étant très turbulente, elle est la source de la génération du champ magnétique, comme j'ai expliqué. C'est la convection, les mouvements de convection turbulente qui transfèrent l'énergie mécanique, le mouvement, en énergie magnétique.
Et donc, est-ce que les cycles de nos ans,
oui, nos ans au Soleil,
on peut.
Je vais y revenir dans d'autres étoiles qui tournent un peu plus vite ou un peu plus lentement, ou qui sont un peu plus massives ou un peu moins massives. Les cycles sont attendus à être différents. Donc il y a une corrélation entre les propriétés globales de l'étoile et la dynamo. Et ce qui est difficile à faire, c'est mettre exactement le doigt pour faire des modèles simples, mais des modèles 3D qui vont nous permettre, avec la non-linéarité, de vraiment caractériser ça. C'est le but de la recherche qu'on fait dans mon laboratoire, dans l'équipe de Paul Charbonneau au Canada, dans l'équipe de deux ou trois autres chercheurs dans le monde. On n'est pas beaucoup à travailler sur ce domaine. Alors là, je vais vous parler de la physique de l'atmosphère solaire, de la couronne et de l'hélosphère, et surtout des phénomènes éruptifs. Donc, je vais vous montrer plusieurs choses. Là, une éruption solaire, ici, qu'on va revoir. Ici, une protubérance qui se passe au niveau de la surface du Soleil et ici le ciel. Et on va revenir, on va reprendre tous ces phénomènes ensemble. Donc là, je voulais vous montrer ce film, en espérant qu'il marche. Oui. Voilà, c'est un film qui a été pris par un satellite qu'on appelle Proba. Et vous voyez le Soleil en ultraviolet sur plusieurs mois d'activité. Et vous voyez, c'était en 2012, donc le Soleil était assez actif à cette époque-là. Et donc vous voyez l'activité permanente. Et donc le but de cette physique-là, de la physique éruptive du Soleil, c'est de comprendre qu'est-ce qui génère, comment ces éruptions sont liées au cycle magnétique et à l'effet dynamo dont je vous ai parlé. Alors voilà la structure de l'atmosphère près de la surface du Soleil. Ici, c'est en kilomètres au-dessus de la surface. Donc 100 km, 1000 km et 100 000 km. Et on voit que la température, comme je le disais, d'abord baisse jusqu'à à peu près un minimum de 4000 degrés. Puis après, il y a une petite transition qu'on appelle la chromosphère, qui fait à peu près 10 000 degrés. Et puis d'un coup, on a une très forte montée de température et on atteint de l'ordre du million de degrés. Et la densité chute par, ça c'est l'échelle pour la densité ici, on chute d'une densité qui avait à peu près un nombre de particules de 10 puissance 17 à une densité où il y a moins de 10 puissance 8 particules. Alors après il y a dans l'atmosphère, la transition de la photosphère à l'atmosphère, il y a ce qu'on appelle un changement de régime du plasma. Le plasma bêta, le paramètre bêta, c'est le rapport de la pression du gaz sur la pression magnétique. Quand il est grand, quand il est petit, ça veut dire que le champ magnétique domine. Et vous voyez qu'on passe d'une phase, comme je le disais, dans l'intérieur du Soleil, où le champ magnétique est esclave des mouvements convectifs, à une zone où le champ magnétique est maître des mouvements convectifs et du vent. Et après, plus loin, on est à cheval entre les deux. Donc, le spectre du Soleil est compliqué, je ne vais pas revenir. Donc voilà, là, je vous montre de nouveau l'activité. Et ici, je vous montre une émergence. Là, vous voyez l'émergence qui se crée. Au début, il n'y a pas l'ombre, il n'y a pas les plus longues, c'est des irisations. Vous voyez, petit à petit, l'irisation se forme en champ magnétique très intense. Alors, pourquoi cette irisation se forme? Parce que vous voyez ici, c'est une tache solaire vue de côté. Vous voyez que les lignes de champ magnétique, elles sont verticales au milieu, là où c'est très sombre, mais sur le côté, elles sont horizontales, elles sont inclinées. C'est cet angle d'inclinaison qui modifie la convection et qui la rend irisée. Donc, voilà la dynamique d'une tache solaire vue de côté. Ce qui est plus rare, vous voyez moins souvent ces films-là. Donc on voit, c'est pour ça que cette structure est forte. Et là, je rappelle à nouveau que ces petits boursouflements que vous voyez, c'est la granulation, ça fait la taille de la France. Donc vous donnez une idée de la quantité de champ magnétique et la concentration en flux magnétique qu'il y a dans ces structures. Donc bon, je vais vous passer les détails des classifications des étoiles, mais voilà le principe de base de l'éruption, vu d'un point de vue schématique. Donc vous avez ces structures magnétiques qui sont créées, ces mouvements magnétiques sont créés par l'effet dynamo à l'intérieur de l'étoile, et ils deviennent flottants, comme je l'ai montré, parce qu'il y a des concentrations de champs magnétiques très intenses, qui fait que c'est plus léger, donc ça monte. Et vous avez donc les taches sombres qui apparaissent où le champ est très vertical et ça se reconnecte par la grosse instantanéité, ça interpasse. Ça, vous allez voir l'oscillation plus réaliste. Et ici, le processus pour créer ces rubans magnétiques, c'est ce qu'on appelle l'effet oméga, c'est-à-dire qu'on convertit du champ magnétique vertical, qu'on appelle poloïdal, peu importe le terme, par le cisaillement de surface que je vous ai montré. Hein, dans les simulations numériques, vous voyez bien que l'équateur tournait plus vite que les pôles, donc vous déchirez. Vous entraînez le champ magnétique, et comme le champ magnétique est esclave de la convection, vous finissez par créer des rubans magnétiques qui deviennent instables et émettent du champ magnétique. Alors voilà par exemple en 3D ce que ça fait, il y a un tube qui monte, on a fait une coupe qui apparaît à la surface, et quand il se passe à la surface, c'est une simulation qu'on a fait, où on a mis des structures un peu idéales, on les voit émerger et la convection en même temps. Quand on fait des boucles oméga plus spécifiques, on arrive à avoir des structures assez complexes et réalistes qui seront certainement sous éruption. Et là, normalement, il marchait hier, c'est pas grave. Donc là, j'ai déjà montré ces boucles. Donc voilà le Soleil vu dans différentes longueurs d'onde, ça on l'avait déjà vu. Voilà le Soleil vu en rayon X. Et on voit qu'il est très intense et qu'il y a vous remarquez qu'il y a des zones très lumineuses qu'on appelle les régions actives, mais il y a aussi des zones très sombres ici, et ça s'appelle les trous coronaux. Et ces trous coronaux, c'est des zones où le champ magnétique ne se referme pas sur lui-même sous une forme de boucle, mais est ouvert dans le milieu interstellaire. Et c'est là où on va avoir les sources de champs rapides. Donc là, on voit une éruption vue en zoom. Et voyez ces boucles-là qui apparaissent, ça c'est la suite de processus de reconnexion après qu'il y ait un placement où il soit parti. Et ça, vous comprendrez d'un point de vue géométrique pourquoi on a ces boucles qui apparaissent. Donc voilà des filaments, comme l'a expliqué la dame dans le film hier. La prominence, la protubérance qu'on a vue au tout début de ce nouveau pot qui montait, la rouge qui gonflait, ça c'est vu de côté. Et quand elles sont sur le dessus de disque, vu de dessus, ça fait, parce qu'il y a de la matière, ça bloque la lumière, ça fait ces filaments noirs. Donc voilà une éruption. Alors là, vous avez deux taches solaires qui interagissent et qui créent cette éruption. Et on voit tout de suite après les lignes de champ magnétique perpendiculaires, hein, je vais vous le remettre. Regardez, après l'éruption, vous voyez tout de suite des arches se créer, c'est lié à la reconnexion magnétique, c'est-à-dire lignes de champ magnétique qui se Et hop, et tout de suite, on voit les lignes de champ perpendiculaires à l'éruption et à l'éjection du filament de matière. Donc, normalement, celui-là, il peut marcher aussi. Là. Donc, voilà une éruption vue en rayon X. Ça, c'est en rayon X mou et en rayon X dur. Alors là, il y a eu une éruption, et voilà, vous prenez les particules dans le visage quelques minutes après. Et vous avez vu comme ça sature, parce qu'il y a tellement eu de particules qui sont arrivées, c'était une grosse éruption. Et vous avez vu, au début, on était rouge, on avait la reconnexion au niveau de la tête de la structure magnétique. Ça a pincé, ça a éjecté de la matière et des particules. Et il y a des électrons, des atomes, des ions qui sont tombés vers la photosphère. Et comme la photosphère est très dense, ces atomes sont freinés par le phénomène qu'on appelle magnétobrandstrahlung, qui se retrouvent à être freinés par le plasma beaucoup plus dense, et donc à déposer leur énergie et à émettre en rayon X dur, et pas en rayon X mou. Donc, voilà la dynamique d'une boucle avec la matière qui se balade le long des boucles magnétiques et les éruptions à différentes longueurs d'onde. Donc, on peut faire une classification des éruptions, et vous avez peut-être souvent entendu parler, à un moment dans le film hier, un des Belges disait « Oui, on a eu un événement de classe M7 assez important, tout ça. » Alors, c'est quoi M7, ça veut dire quoi? Bon, mais c'est une classification en fonction du flux en rayon X dans la bande entre 1 et 8 angstroms. En fonction de l'intensité de ce flux-là pour le phénomène observé, on est en ABC MX. Donc, dès que vous entendez parler de quelqu'un qui dit « Ouh, il y a eu une sphère X sur le Soleil », c'est peut-être une sphère très intense, très calme, et envoyé énormément de rayons X. Ce n'est pas forcément toujours lié à une éruption de matière, mais ça peut être. Donc, M7, c'était 7, 10-5 dans cette gamme. Alors, il y a toute une gamme de microfers et de fers de différents types qui ont un temps de vie de quelques centaines de temps d'alvéol, qui est le temps de propagation du champ magnétique. Et on crée des structures qui vont de 10-3 à 10-4 km jusqu'à des structures qui font la taille pratiquement du Soleil, 10-5 à 10-6 km. Alors voilà la statistique en fonction du temps. Quand on est en flair au-dessus de 10, quand on a une flair X10, c'est vraiment très 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 intense. Et on voit qu'il y en a souvent, il y en a quelques-unes, des flares X, qui sont proches du pic ou un petit peu après le pic. Et on voit qu'il y a une certaine corrélation avec le nombre de flares au niveau du pic d'activité. Et c'est normal parce que plus vous avez de taches solaires à la surface, plus vous avez de chances d'avoir des configurations complexes du champ magnétique à la surface, et plus vous avez de chances d'avoir des éruptions. On comprend bien. Alors, plusieurs processus d'émission, mais je voulais vous montrer ici, pour vous montrer que le Soleil, c'est un corps noir, principalement, centré à peu près à 5800 degrés de température, mais dans certaines zones du spectre électromagnétique du Soleil, on est au-delà du corps noir. Donc ici, vous voyez, cette courbe ici, c'est la courbe du corps noir centré aux entours de 5800 degrés, donc 5800 degrés, comme on l'a vu hier, c'est centré au niveau du visible, mais donc bien sûr, vous pouvez étendre votre spectre et regarder à quoi ressemble, en échelle logarithmique, votre spectre d'émission lumineuse du Soleil jusqu'au rayon X. Et ça, c'est le corps noir. Vous voyez qu'en fait, le Soleil, il a une queue non thermale, qu'on appelle, et qui est liée à ces phénomènes d'excitation, qu'ils soient des raies d'émission liées au rayon X, ou des rayons durs qui, généralement, c'est plutôt les ions qui font ça, pas les électrons, voire même des rayons gamma. Donc le soleil est un émetteur de rayons gamma, ce qui n'est pas très bon pour la santé. Et voilà, donc des structures magnétiques, on peut essayer de reconstruire les lignes de champ magnétique par des modèles simples, ou plus ou moins simples, et on voit la structuration, on voit que ça représente assez bien les images en ultraviolet. Alors je vais vous montrer cette éruption-là, qui a été faite avec SDO, et parce que... C'est pas normal, ce matin, quand j'ai mis le film, il marchait, quoi. Je comprends pas que ça soit pas le cas. Donc, je vais me mettre dans ce mode-là. Comment j'ai pu perdre le film, hein. Je veux vraiment vous montrer celui-là. Donc bon, attendez deux secondes, je vais prendre deux secondes pour vous mettre. Je l'ai fait ce matin et ça marchait, là je ne comprends pas comment je ne vais pas le perdre. Alors, Movies, Ballistique. Donc, guided. Voilà. Donc voilà, là, je vais vous montrer une éruption. Vous allez voir le matériel retomber sur le soleil. Et si vous avez une tâche active, il y a des lignes de champ magnétique. Et comme le plasma est chargé, il est piégé par les lignes de champ magnétique. Vous allez voir que cette éruption qui, normalement, part vers l'espace... Dans ce cas particulier, pour une raison qu'il faudrait étudier en détail, une partie de la matière est retombée à la surface du Soleil. Et vous allez voir que la façon dont elle retombe, comme elle est proche d'une tâche active dans cette zone-là particulière, elle va avoir un comportement qui n'est pas naturel. La matière retombe, et vous voyez qu'ici, là, elle est comme canalisée par une champ magnétique. Je ne sais pas si on voit aussi bien que ça. Peut-être qu'il faudrait être un peu plus sombre. Je vais le repasser. Donc on voit vraiment la matière comme guidée, vous voyez là, comme amenée. Elle n'est pas du tout dans un mouvement balistique, quoi. Et je vais maintenant vous mettre le film qui est complémentaire de ça. Vous allez voir qu'il y a effectivement un comportement différent. Donc là, c'est le cas où... n'est pas guidée. Donc la matière tombe, elle tombe simplement normalement, comme si c'était une balle qui retombait, la matière qui retombe sur la surface du Soleil. Oui. Donc ça crée des phénomènes secondaires. Mais là, on n'a pas eu ce même phénomène de guidage de la matière. Voilà.
La surface du Soleil, c'est quelque chose de très bien défini, c'est une interface très nette.
Oui, enfin, ça dépend à quelle longueur d'onde, mais si tu te mets sur tu prends une opacité de Rossland et que tu définis une profondeur optique, tu intègres ton opacité de Rolland, donc l'opacité moyenne, quand tu sais intégrer sur toutes les longueurs d'onde, tu intègres une profondeur optique, et là on considère qu'à 1, la profondeur optique, on est à la surface du Soleil, c'est la photosphère 1 à 2 tiers. Alors, c'est pas le bon, je reviens sur mon cours. Voilà. Okay. Donc voilà une éjection de masse coronale en lumière blanche où on voit des structures intéressantes, on voit qu'il y a une cavité qui se crée avec un petit trou là, et on voit surtout l'hélicité. Là vous voyez que la structure elle est hélicoïdale et on pense que c'est un aspect assez important, cette hélicité, la structure magnétique qui vient de la reconnexion et du mouvement des pieds des lignes de champ magnétique. Donc il y a les tâches actives, on déplace les pieds, ça crée l'hélicité, et quand on se déclenche, comme ça part. Donc voilà, revu dans d'autres images. Alors on peut regarder entre la présence d'éruption, des flares, et l'éjection de masse coronale et la vitesse. Donc là, la vitesse de la CME, vous voyez, elle peut atteindre jusqu'à 2500 km par seconde. Vous vous rappelez que dans le petit bulletin de météorologie spatiale, à la fin du film, on disait un événement qui peut atteindre jusqu'à 2100 km par seconde. Hein, donc c'est des événements très extrêmes. La vitesse du vent solaire, comme on va le voir, est plutôt de l'ordre de 400 à 800 km par seconde. Donc là, on est quand même des vitesses qui sont trois fois supérieures. Et donc en fonction de l'existence ou pas de flair. La corrélation, c'est assez intéressant, elle n'est pas de 100%. C'est pas parce que vous avez une flair très intense X, vous allez avoir forcément une CME, et vous pouvez avoir des CME, des élections de masse corollaire, sans évolution intense. Donc il n'y a pas une corrélation 100%. Souvent, il y a une bonne corrélation, mais elle n'est pas parfaite. Donc il y a des subtilités là-dedans. Alors le principe de base, c'est bien évidemment la reconnexion magnétique. Vous avez des lignes de champ magnétique qui sont partent comme ça. Vous avez une zone de reconnexion et les lignes de champ magnétique vont se refermer. Donc je vous montre ici, vous avez un complexe par exemple de lignes de champ magnétique, vous avez une éruption et là les lignes de champ magnétique se reconnectent, donc elles forment ces arches et il y a un plasmoïde qui va être éjecté. Ça, vous allez voir des simulations après. Donc typiquement, voilà ce que ça donne. Vous avez deux taches solaires, vous avez donc une structure ici, il faut imaginer que cette structure-là ici, elle se reproduit tout le long de la boucle qui connecte les deux pieds de la structure bipolaire. Et vous avez reconnexion magnétique et le champ magnétique vont former une boucle ici qui va se fermer et le plasmoïde qui va être éjecté. Et donc du coup, vous avez après, c'est pour ça qu'on voit après les arches perpendiculaires à l'éjection du filament. Donc voilà, là on comprend bien quoi. On a cette reconnexion magnétique. Donc ici, incroyablement dans cette image, ils sont arrivés à avoir cette structure un peu en tire-bouchon, quoi, qui est la présence de reconnexion magnétique. Alors, je vais vous montrer quelques résultats faits par des collègues américains qui montrent les films en... Alors, d'accord. Décidément, moi, mes liens se sont cassés pour une raison qui est inexplicable. Donc, je vais vous rouvrir le fichier. On ne va pas se prendre la tête. Je vais essayer de la réorganiser. Et c'est quoi que je vais voir? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tout ça, je ferme. Alors, je vais l'ouvrir. Pourquoi il ne s'ouvre pas, lui? Alors, zoom. Je pense que là les liens fonctionneront. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer ça. Donc là vous avez une éruption à nouveau et on va regarder les simulations numériques. Donc là on arrive à reconstruire une champ magnétique. Et voilà par exemple une simulation 3D. De l'éruption qui s'est passée ici du Bastide Event. Il s'est avéré qu'en 2003, en 14 juillet, il y a eu une énorme éruption et donc du coup ça s'appelait Bastide Event. Donc vous voyez ici en lumière blanche la CME associée modélisée par mes collègues américains. Alors je voulais vous montrer après cette. Il y a aussi des phénomènes de flaire sympathique. Et donc là, qu'est-ce que c'est des flaires sympathiques? C'est le lien entre... On va relancer ce film. Vous voyez ici, il y a une éruption qui en déclenche une autre. Paf, paf, paf. Vous avez vu, il y en a trois ou quatre qui se passent en même temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle les flaires sympathiques. Elles sont reliées temporellement par une perturbation du champ magnétique coronal qu'il y a autour de l'objet. Et... on peut regarder la structure magnétique de ça. Donc, je vais vous montrer un film qui montre bien ça. Normalement, voilà. Donc là, on a un premier ruban qui part, qui déconnecte le deuxième et qui déconnecte le troisième. Est-ce que je veux dire? On peut avoir comme ça des déstabilisations de la couronne magnétique du Soleil. Donc, je vais vous le remontrer. Voilà. On voit bien le point X ici, là, qui c'était la current sheet. La feuille de courant qui est là, qui est très intense, et qui crée ces séquences compliquées d'éruption. Donc voilà une vue 3D plus précise de ces phénomènes de reconduction. On voit bien les couches de courant où les lignes de champ magnétique peuvent se pincer, reconnecter et éjecter de la matière. Donc voilà une modélisation 3D des trous coronaux qui permet de comprendre la couronne. Et mes collègues, là, Zoran Mikic en particulier, il est un des experts mondiaux qui permet de prédire la couronne qu'on va avoir lors des éclipses totales du Soleil. Donc il dit qu'il connaît la topologie magnétique du champ magnétique peu de temps avant grâce aux observations, peu de temps avant l'éclipse totale du Soleil, et il fait une prédiction de l'éclipse totale. Et puis après, il compare avec la réalité. Donc ça, c'est intéressant. Donc on peut commencer en physique solaire à faire la prédiction. Et voilà une éruption ici en 3D, quoi. On voit, on commence à pouvoir faire ces éruptions. Je vais repasser ce film parce que c'est vraiment bien, quoi. Donc on voit la structure magnétique à partir de magnétogramme réaliste qui éjecte la matière. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on regarde de plus près les différentes structures. Et voilà en 3D une éruption dans une configuration complexe du champ magnétique. Donc vous voyez, il y a quand même des travaux très, très avancés qui sont faits. Et vous voyez, la structure est éjectée. Être éjecté en 3D grâce aux différentes relations qu'il y a entre la topologie magnétique d'une zone avec une autre. Donc voilà, je peux revenir à ma présentation, je vais vous montrer ces films parce que je les trouvais très beaux, quoi. Je pense que ça permet de bien illustrer où on en est en physique solaire sur les phénomènes éruptifs. Donc, je vais revenir à ma présentation, je vais vous parler maintenant du vent solaire. Bien sûr, ces CME, quand elles éjectent de la matière, il y a un gros nuage magnétique qui arrive et puis il peut impacter la Terre si la météorologie laisse passer. Donc je passe, ça je vous ai déjà montré. Donc comme je l'ai dit, on peut essayer de prédire à quoi ressemblent les trous coronaux et de calculer l'émission. Alors ça c'est une vraie image et puis ça c'est la simulation imagée. Et ici je vous montre une vieille image qui remonte à 1975. Où on avait un trou coronal qui avait un peu la forme d'une botte italienne et on voulait savoir, je ne sais pas si vous voyez assez bien, je ne crois pas qu'on voit très très bien, il y a des lignes pointillées ici et on ne le voit pas très bien, et donc ils ont suivi ce trou coronal, il reste plusieurs rotations, donc 5 mois à peu près, on a pu le suivre. Et on a regardé sa déformation au bout de 5 mois pour voir comment il était. Et on a appliqué la rotation différentielle, on voit la surface que j'ai modélisée avec les simulations, et on essaie de voir si la déformation de ce trou coronal était liée à la rotation différentielle de surface. Et on voit qu'il y a un désaccord. Le trou coronal est ici, et la déformation qu'on aurait pu prévoir est là. Donc on voit que cette structure est capable de se défaire un petit peu de son entraînement de surface. Donc je passe ça. Voilà. Et donc là maintenant, on arrive à la partie CME vent solaire. Donc ici, on a de nouveau une CME et vous allez voir, elle va venir impacter de nouveau le détecteur. Il va en avoir une très, très grosse. Et voilà, là vous avez vu, vous êtes complètement saturé. Alors cette saturation, vous allez me dire, mais vous m'avez dit que c'était 300-400 km par seconde, voire peut-être 1000 ou 2000 pour les plus intenses. Mais comment on fait pour arriver en quelques minutes à un satellite qui est à 150 millions de kilomètres du Soleil, hein, parce que le SOHO qui regarde, il est au point de Lagrange 1 du système solaire. Le point de Lagrange, c'est les points de gravité neutre entre le Soleil et la Terre. Et donc on se retrouve avec une situation où en fait, il y a un précurseur énergétique à toute éruption qu'on appelle les Solar Energetic Particles, qui se déplacent à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière. Donc en fait, elles mettent à peu près 15 minutes pour nous parvenir. Et après, vous avez le gros nuage magnétique qui lui met de l'ordre de 2 à 4 jours pour venir. Donc vous avez un précurseur très énergétique qu'on appelle les SEMPs, Solar Energetic Particles. Donc ici, il n'y a pas que sur le Soleil qu'il y a des éruptions solaires. Donc là, c'est une artiste d'une planète, d'une exoplanète proche de sa planète, de son étoile active, et qui pourrait se retrouver à être pris dans
pratiquement dans une éruption, dans une prominence.
Voilà, c'était juste une artiste que je voulais vous montrer. Alors, est-ce que c'est vrai sur Terre? Est-ce qu'il y a des éruptions solaires? Est-ce qu'il y a des éruptions de flares stellaires qui peuvent effectivement être si proches et si intenses qu'elles viendraient pratiquement tutoyer la surface de la planète qui tourne autour? Et bien, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est des éruptions sur votre étoile, on en a observé. Et donc ici, c'est le satellite Kepler qui regarde la variation de la brillance de l'étoile, et de temps en temps, on voit des pics comme ça, vous voyez, des pics très intenses. Et quand on zoome, on voit que ces pics, ce n'est pas juste un problème lié à un mauvais pixel dans le détecteur, c'est vraiment, il est structuré, il y a plusieurs points, et donc on sait que c'est vraiment physique. Et bon, Kepler, pour savoir, il observe un champ d'étoiles proches de la constellation du Cygne. Et donc, on regarde en détail ces émissions et on convertit la variabilité de brillance observée en énergie totale. Et là, on dit que cette flaire ici, vu la variabilité et connaissant l'intensité lumineuse de l'étoile, on sait que, a priori, l'énergie totale de cette flaire est de 10 puissance 36 erg, ce qui est très 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 intense. Parce que le Soleil, il est qu'à 10 33 par exemple, pour la luminosité totale. Donc on pense que, voilà, on passe d'une étoile de type Soleil actif à une étoile super active avec énormément de structures magnétiques, des très grosses taches solaires et des rubans et des éruptions de façon très intense. Alors ils ont fait une statistique, mes collègues japonais, ils ont regardé toutes les étoiles dans le champ de Kepler qui étaient de type solaire. Bon, leur définition peut être remise un petit peu en cause par certains chercheurs. Et puis ils ont regardé, en fonction de la rotation de l'étoile, combien elle est émettre. Et là, vous voyez, l'énergie va de 10-33 jusqu'à 10-35, 10-36. C'est donc des phénomènes très, 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 très énergétiques. En particulier dans la zone de rotation du Soleil qui est de 28 jours. Je vous rappelle que le Soleil tourne sur lui-même en 28 jours. Donc, là, je vous montre la flaire solaire la plus grande. Elle faisait à peu près 10-32, 10-33. Et donc, c'est à peu près une X10, X, bon, la plus intense qu'on a vue, c'est peut-être une X100. Et donc là, on peut regarder la statistique. On voit qu'il y a, comme je l'ai dit, plusieurs sortes de continuité de presque, on pourrait dire, une structure un peu fractale, des petites flaires, des stop flaires et tout ça. Donc on part des nanoflares jusqu'au solar flare, jusqu'aux plus grandes flares et les super flares. Et eux, dans leurs statistiques, c'est cette distribution ici. Et ils montrent que d'après leurs calculs, en 10 puissance R, et là vous voyez, on a 10 puissance 28, 10 puissance 30, 10 puissance 32. C'est à peu près ce qu'on a vu de plus gros comme l'éruption de Carrington. Et donc on voit que dans certaines étoiles, on va jusqu'à 10 34, 10 35. Donc comme je disais dans le film, de l'ordre de 1 à tous les 1000 à 10 000 ans. Alors bien sûr, tout ça doit être raffiné. Alors voilà une image du Soleil, de la tache solaire la plus grande jamais observée. C'était en 1947. Et on voit le complexe ici, et on compte en millionième d'hémisphère solaire. Alors on va dire, c'est dans le 8 millionième d'hémisphère solaire. Il faut savoir que dans cette unité, la Terre fait 167 millionièmes, et que les plus gros complexes de tâches solaires qu'on a vus faisaient de l'ordre de 3 à 4 000. Donc on voit des complexes magnétiques qui faisaient plus de 20 fois la Terre, donc des trucs vraiment énormes. Donc voilà ce que ça pourrait donner à la surface du Soleil. Donc j'ai des copains, l'observateur de Meudon, qui ont essayé de reprendre les calculs des Japonais, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec eux, ils disent que la valeur maximum, avec une tâche aussi grande que celle qui a été observée en 1947, pourrait être de 10 puissance 34, au-delà, et ils disent que ça paraît un peu irréaliste. Mais bon, c'est des débats d'espère, ça, je vais vous épargner. Alors, combien de temps il reste?
Ça monte? Pas longtemps,
c'est ça? Une grosse demi-heure. Donc, comme je vous l'ai dit, les étoiles évoluent, et ces étoiles, elles ont donc du champ magnétique, elles sont actives, mais elles tournent aussi, les étoiles. Et on a une distribution de rotation des étoiles. Et les étoiles ne tournent pas toutes pareilles, ça dépend de leur âge. En fait, voilà l'évolution de la rotation au cours de l'âge des étoiles en fonction de la rotation solaire. Donc quand on est à 1, on tourne autour du Soleil, et quand on est à 4,5 milliards d'années, on tombe sur le Soleil, qui est ce petit cercle. Et donc après, on regarde les observations, et on voit que quand les étoiles sont jeunes et qu'elles sont en train de se former, il y a une très grande dispersion des rotations. Et plus on approche du large du Soleil, plus la dispersion s'amoindrit, et plus les étoiles convergent vers une rotation de type solaire. Alors, c'est ce qu'on appelle la loi de Schumannich. On sait qu'à partir du moment où l'étoile est arrivée sur sa séquence principale, où elle brûle son hydrogène et où elle a son vent solaire, sa rotation décroît comme la puissance à racine carrée de l'inverse du temps. Enfin, l'inverse de la racine carrée du temps. Et on a des différents scénarios. Ici, on part avec une étoile qui était partie de la statistique un peu basse. Elle est couplée à son disque d'accrétion initial. Et puis, elle contracte, elle se forme. Donc, elle augmente son taux de rotation par conservation de moment cinétique. Et puis, après, elle perd son moment cinétique par le vent solaire. Donc, on va discuter un peu des relations soleil-terre. Donc. On a bien sûr des CME qui peuvent partir, en plus du vent, qui peuvent impacter les planètes et se déplacer et dans le milieu interstellaire et atteindre la limite du cocon magnétique du Soleil, qu'on appelle l'héliosphère. Parce qu'il faut savoir que le Soleil a un champ magnétique, il a donc un cocon magnétique, comme la Terre a un cocon magnétique qu'on appelle la magnétosphère. C'est le nom beaucoup plus grand. Alors là, c'est Sacha Brun, théoricien qui essaie de faire des expériences. Et donc là, je suis au Japon. Je suis en train de revenir du Japon. Vous savez qu'au Japon, à cause de Fukushima, les compteurs GGR sont à moitié prix. On peut en acheter pour vraiment pas cher. Donc j'ai acheté un petit compteur GGR électronique pour pas grand-chose. Et je me suis donc amusé de voir ce qui se passait quand j'étais dans mon avion, en train de revenir d'Osaka, en train de voler au niveau de la Sibérie, donc près des cordées polaires du champ magnétique terrestre, pour voir quelle dose de radiation je me prenais à ce moment-là. Comme vous le voyez sur mon détecteur GGR, dangereuse radiation background. Donc quand on est dans un avion, on se prend des doses dangereuses. Alors bien évidemment, on ne vole pas suffisamment pour que cette dose accumulée soit mortelle, mais vous pouvez imaginer que si vous êtes en train de voler près des cordées polaires et qu'il y a un énorme événement qui arrive, intéresse que l'avion change de trajectoire, parce que sinon vous la prendriez en plein. Et j'ai trouvé sur internet quelqu'un qui a fait cette expérience, et lui il n'a pas 3 ou 4 comme moi microsieverts par heure, il a 25 je crois. Donc lui il a dû, au moment où il l'a fait, il a dû avoir un nuage magnétique qui était arrivé sur Terre il n'y a pas longtemps, quoi, parce que c'est quand même presque 10 fois ce que moi j'ai détecté, quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des petites expériences rigolotes de space laser dans l'avion. Et là, je voulais vous montrer un phénomène réel. Donc là, on voit une comète, on voit la queue cométaire. Et ça, c'est le vent par soustraction. Donc on fait des soustractions d'images pour avoir le flot de matière. Et là, d'un coup, il y a un nuage magnétique qui arrive. Et vous avez peut-être vu, si ça a été un peu vite, la queue cométaire ionique s'est détachée. Là, il y a d'un coup une bouffée. Là, hop, elle s'est détachée de la comète. Donc, on sait que ça marche. Voilà une vue d'artiste pour que vous compreniez un peu mieux ce qui se passe. Donc, la comète se balade. Vous savez qu'il y a deux queues dans les comètes. Il y a la comète liée à la sublimation de la glace. Et la comète, elle est la queue liée à la queue ionique. Et c'est en observant la présence de deux queues dans les comètes que les gens ont compris que le Soleil avait un vent particulier. Donc, bien évidemment, les conséquences de ça, c'est les aurores boréales. Alors là, je vais vous montrer ce film pour vous donner une idée des ordres de grandeur. J'espère que moi, on va faire la même chose avec mon équipe de recherche. Donc là, on parle d'un zoom auprès du Soleil. Il faut savoir que la Terre est à 215 rayons solaires. Et on voit le nuage magnétique se déplacer. Et maintenant, on va zoomer, et encore zoomer, pour voir la Terre. OK ? Pour vous donner une idée des échelles. Je vous ai dit, on zoomait beaucoup. Voilà. Donc là, maintenant, on se prend le nuage magnétique. Mais vous avez vu que là, maintenant, je suis dans une échelle qui est en rayon solaire, qui va de 19.7 à 20.3, donc on n'a même pas un rayon solaire de distance verticale, alors qu'avant, dans le film, on le reprend, ici, une chance, au moment où le nuage se déplace, vous voyez que son extension est plutôt de l'ordre de 50 à 60 rayons solaires de chaque côté. Hein. Donc on a des choses qui sont parties du Soleil, qui vous avez parlé du Soleil, et en s'expandant jusqu'à 8 limites astronomiques, donc 215 rayons solaires, la structure a pris pratiquement 100 rayons solaires, et nous on est tout petit par rapport à ça. Donc, bien sûr, il y a un impact sur la magnétosphère terrestre. La magnétosphère terrestre est en état de repos. S'il n'y avait pas cette pression turbulente venant du vent solaire et éventuellement de d'éruption des nuages magnétiques, elle ne ferait que 10 rayons solaires. Mais comme quand vous conduisez votre moto avec des chevaux au vent, devant vous êtes comprimé, derrière les chevaux ne viennent pas en arrière, si vous avez les cheveux longs, bien sûr. Et donc, on voit que la queue magnétique de la magnétosphère terrestre peut s'étendre jusqu'à 70 rayons terrestres. Alors bien sûr, il n'y a pas que la Terre qui a une magnétosphère. Donc là, Mercure en a une. On peut zoomer. Donc la taille de la magnétosphère de Mercure peut se contenir dans celle de la Terre à peu près. Vous pouvez zoomer et mettre celle de la Terre à peu près dans celle de Saturne, x5. Et vous pouvez après, on a agrandi celle de Saturne par ça, et après vous pouvez voir que la magnétosphère de Jupiter est gigantesque et elle est très grosse même par rapport au Soleil. Et donc des aurores boréales, on ne voit pas que sur Terre, on voit aussi sur Jupiter et Saturne, comme vous le voyez ici. Hein, bien sûr. Alors il y a un petit truc qui est assez intéressant dans le système jupitérien et les satellites galiléens, c'est que Io, ça doit vachement t'intéresser parce que tu vois trop court de ça, Claude, tu sais que Io a un volcanisme qui est tel que quand elle érupte, la matière ne retombe pas parce que la matière est éjectée à une vitesse supérieure à la vitesse de libération gravitationnelle. Et donc, ce plasma, ce magma qui est éjecté par l'activité volcanique de Io, qui est due aux effets marées très intenses de Jupiter, fait qu'il y a du magma qui ne peut plus avoir, je ne sais pas pourquoi il est composé, ça serait intéressant, qui se retrouve le long de la trajectoire de Io. Quoi. Et donc, on a une sorte de tour de plasma. Voilà, c'est bien sûr exagéré, c'est une artiste. Donc il y a un torque plasma et donc il y a des reconnexions magnétiques qui sont dans la magnétosphère de Jupiter avec le torque de plasma le long de l'orbite de Io, avec des six orages magnétiques et des choses très intenses qui se passent liées à sa présence de matériel plasma. Donc le vent solaire, qu'est-ce que c'est le vent solaire? On a un processus d'accélération des particules et j'ai quasiment fini. Alors la raison principale, donc là bon, peu importe, c'est des détails. Je voulais juste vous parler de la solution de Parker du vent solaire. Pourquoi n'avons-nous pas une atmosphère statique au Soleil? Pourquoi l'atmosphère du Soleil est dynamique? Pourquoi il y a un vent? Alors, une des raisons simples pour expliquer, c'est que si vous prenez une atmosphère simplement statique, hydrostatique, et que vous regardez la chute de pression entre la surface du Soleil et le milieu interstellaire de l'infini, vous n'avez que 4 ordres de grandeur de chute de la pression. Or, le milieu interstellaire est 10 puissance moins 14 fois moins dense que la surface du Soleil. Donc, il vous manque 10 ordres de grandeur. Donc, une atmosphère statique pose un problème parce que vous arriveriez avec une différence de pression de 10 puissance 10 entre le milieu interstellaire et la surface du Soleil. Donc, l'atmosphère étendue du Soleil ne peut pas être statique. Elle doit être forcément dynamique. Et grâce à ces Parker, en 1958, qui a montré ça, il a montré, à partir d'équations très simples, que un D au début, sans champ magnétique, bien sûr, depuis on fait mieux, qu'il y avait 5 solutions. Il y en a 2 qui ne sont pas physiques, parce que pour la même vitesse, vous avez 2 positions. Il y en a, la solution 1 et la solution 2, elles ne sont pas physiques, parce que pour le même rayon, vous avez 2 vitesses. Donc 1 et 2 ne sont pas physiques. 3, c'est un vent supersonique, c'est-à-dire que ici, là, en 1, on trace la vitesse du vent sur la vitesse du son du milieu. Donc quand on est à A, on est au point sonique, c'est-à-dire que le vent va à la vitesse du son. Et donc, en fait, vous avez la solution supersonique, et ça n'a pas été observé. À la surface du Soleil, on ne voit pas un vent supersonique. Donc on peut enlever cette solution. Il y avait une solution qui plaisait plus aux astrophysiciens de l'époque, qui était un peu conservateur par rapport à la solution de Parker, qui était la solution d'une brise, d'une légère brise solaire, et qui ne sera jamais supersonique. Et ça, on sait que ce n'est pas le cas, parce que les mesurements in situ au niveau de la Terre montrent que le vent est supersonique, il y a un choc d'étrave devant la magnétosphère terrestre. Et donc c'est la solution transsonique qui est valable, qui passe de un vent subsonique à un vent supersonique. Donc, on peut observer le vent et sa vitesse. Donc, comme je disais, ça peut prendre 400, ça c'est en fonction de la vitesse, l'axe et la vitesse. Donc, on va jusqu'à 1000 à peu près ici. Quand le Soleil est actif, vous voyez que le vent est beaucoup plus complexe avec des jets rapides et des jets lents. Et ça varie au cours du cycle. Donc nous, on a fait des simulations avec différentes topologies. Et là, par exemple, voilà la variation du vent solaire au cours d'un cycle de 11 ans, où on a la topologie magnétique qui change et comment ça modifie le vent et son action. Donc on peut regarder comment la perte de masse varie au cours du cycle solaire, etc. Je vous passe les détails. Et comment la zone d'influence magnétique du Soleil modifie aussi. Donc cette zone magnétique, elle peut être séparée ce qu'on appelle une couche de courant neutre. Et cette couche de courant neutre sépare les lignes de champ magnétique qui sortent du Soleil de celles qui rentrent. Et selon la topologie magnétique du champ magnétique du Soleil, elle peut être plus ou moins compliquée. Donc voilà, sur un cycle de 11 ans, ce que donne la couche de courant neutre. Alors au début, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle la ballerina skirt, c'est-à-dire la tutu de ballerine. Au début, on a une sorte de couche de courant neutre un peu ondulée, comme un tutu de ballerine. Et après, on devient French cancan, parce que quand l'activité du soleil est tellement forte, on commence à lever les jambes vachement haut, et vous allez voir, on commence à avoir des couches de courant neutre qui sont très perpendiculaires, ou qui sont plus du tout dans le plan éclectique de l'étude du Soleil. Là, on est vraiment franchement quand elle a levé la robe. Hein. Et donc voilà à quoi ça ressemble la couche de courant neutre. Donc là maintenant, comme le Soleil tourne sur lui-même en 28 jours, vous comprenez que ça arrive régulièrement que la Terre mettant un an pour faire le tour du Soleil, en gros, le Soleil tourne beaucoup plus vite que la Terre tourne autour de lui. Donc en permanence, avec son champ magnétique qui varie au cours du cycle, la Terre va passer des couches de courant, ce qu'on appelle les secteurs nord ou sud, qui varient énormément. Alors, vu de dessus, c'est le phénomène de la spirale de Parker, avec, comme je disais, la perte de moment cinétique est proportionnelle à la perte de masse fois un bras de levier. Et le bras de levier, c'est ce qu'on appelle le rayon d'Alven, c'est-à-dire à l'endroit où le vent solaire devient plus rapide que la vitesse alvénique. Donc vous avez entendu parler du nombre de Mach sonore, quand la vitesse va plus vite que la vitesse du son, il y a un nombre de Mach magnétique, quand la vitesse du vent va plus vite que la vitesse magnétique, qu'on appelle la vitesse d'Alven. Et donc le principe, c'est comme dans les sprinklers, comme dans les trucs, vu du repère. Si on était autour du Soleil, les particules partent radialement du Soleil. Mais vu d'un repère qui n'est pas en rotation avec le Soleil, on voit que les gouttes partent et traînent derrière, quoi, sont en retard. Et ça, on comprend bien parce que vous savez que pour tourner de façon solide, il faut que la vitesse longitudinale Vφ soit proportionnelle au rayon. D'accord ? Et si ce n'est pas le cas, quand vous partez avec une certaine vitesse, et bien petit à petit, plus vous vous éloignez, moins votre vitesse longitudinale est correcte pour rester au-dessus du même endroit en longitude, et donc ça finit par partir en arrière, et ça crée cette structure en spirale qu'on appelle la spirale de Parker dans le milieu interstellaire. Donc voilà à quoi elle peut ressembler. Donc vous avez un champ magnétique autour du Soleil qui est enroulé sous la forme de la spirale de Parker ici, qui se déplace, vous avez l'héliopause qui représente le cocon magnétique du Soleil, vous avez un choc terminal quand le vent redevient subsonique, à peu près à 100 fois la distance sur la Terre, et tout ça se déplace dans la galaxie. Voilà donc le principe de tourner, voilà, et normalement ce film-là vous montre la spirale de Parker avec éventuellement une CME qui se déplace, mais c'est des simulations. Voilà, donc vous avez donc une CME, le vent permanent, une tempête qui est la CME, le cocon magnétique qui est avec le choc des traves éventuellement dehors. Et vous avez certainement entendu parler que Voyager avait passé certainement cette héliopause, était sorti de l'influence magnétique du Soleil à la sortie de l'hémisphère. Et donc vous vous déplacez dans le milieu interstellaire. Et vous avez, on pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de sortir d'un nuage local pour peut-être aller dans un autre nuage. Et donc, on est en train peut-être de sortir d'une surdensité pour arriver et changer de nuage au niveau du déplacement du Soleil. Et là, il me reste combien de temps ? Quelques minutes maintenant, c'est fini ? Hein ? Ouais, voilà. Donc, le champ magnétique des étoiles varie au cours du temps. Et là, on a des étoiles de type solaire qui sont à cette phase-là, donc Donc ça c'est la ZAN, ce qu'on a vu, ça c'est la ligne de naissance des étoiles, et selon leur masse, elles vont avoir différentes structures, elles vont être d'abord complètement convectives lors de leur formation, puis après avoir un cœur radiatif qui apparaît avec une zone de convection externe comme le Soleil. Si elles sont un peu plus massives comme celle-là, elles vont après complètement expulser leur zone de convection et devenir complètement radiatives. Et si elles sont très massives, quand elles arrivent sur la ZAMS, généralement quand elles arrivent sur la ZAMS, elles vont avoir un cœur convectif. Donc les étoiles, selon leur masse, elles peuvent avoir un cœur convectif ou un cœur radiatif. Donc on a fait des simulations de vent qui prenaient en compte des topologies magnétiques plus complexes. Donc vous voyez, on a fait changer les étoiles, on les a fait tourner plus ou moins vite. Donc là, on est dans le cas de la rotation lente avec une géométrie dipolaire, quadrupolaire, octupolaire, et là, dans une rotation rapide. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la rotation rapide? C'est ce qu'on appelle le phénomène magnétocentrifuge, qui est un peu comme vous prenez une corde et vous mettez une petite bille dessus. Si vous tournez votre corde comme ça, la bille va se déplacer vers l'extrémité de la corde. Et bon, ben, cette accélération par les lignes de champ magnétique des particules tend à accélérer le vent et donc à rapprocher la zone à laquelle vous atteignez la vitesse du champ magnétique. Et je vais passer les détails. Donc là, normalement, j'espère que lui, il va marcher, non? Et bon, ben, vous savez, je vais vous montrer deux films et on arrête là. Donc, je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé, parce que j'ai tout mis pour les... Il y a certains films qui marchent, certains d'autres films qui ne marchent pas. C'est vraiment très, très bizarre. Et je vais vous montrer deux petits films qui vous montre un peu le... Voilà. Donc on a pris une carte de champ magnétique réaliste. Donc vous voyez, les structures magnétiques au début sont simples et potentielles, et on va ouvrir le vent. Et le vent va ouvrir la ligne de champ magnétique. Et la surface grise, vous voyez, c'est la surface d'Alven, c'est-à-dire c'est la zone à laquelle le vent devient plus rapide que la vitesse d'Alven. Et donc c'est votre bras de levier pour votre perte de moment cinétique. Et donc vous voyez que ça peut avoir une structure assez complexe, non homogène, quoi. Voilà, donc ça c'était le premier film, et non, un peu le deuxième maintenant. Normalement c'est SPI, avec SPI je devrais pouvoir le retrouver. Et je vais vous montrer juste celui-là, et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Et je pourrais prendre quelques questions si vous voulez. Dans l'espiral, il y a beaucoup de choses dans l'espiral. Excusez-moi. Et je m'arrête là. Je ne comprends pas pourquoi le lien n'est pas resté connecté. Voilà. Et puis donc. Ah non, c'est le même, celui-là. Bon. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques questions à me poser tant que je trouve ce film là.
Est-ce qu'on a des données ou des suppositions de combien ça a changé le champ magnétique autour de la Terre, disons, des dernières, je ne sais pas, milliards d'années?
Oui, on a une très bonne idée parce qu'on a une très bonne corrélation entre le taux de rotation de l'étoile et l'activité magnétique du Soleil. Donc on sait que les étoiles jeunes sont beaucoup plus actives que le Soleil. Et donc on sait que le Soleil jeune était plus actif que maintenant et qu'il avait un vent plus intense. Au jour d'aujourd'hui, on perd 10-14 masses solaires par an avec le vent actuel. Et on pense que quand le Soleil était jeune, on en perdait 10-7. Donc il y a eu une variation de 6 à 7 heures de grandeur, bon 10-7, 10-8 heures, on ne va pas se battre sur les chiffres, il y a eu au moins 6 heures de grandeur d'écart entre la perte de masse du Soleil et son intensité magnétique. Alors pour l'intensité magnétique, ce n'est pas du tout ces heures de grandeur-là, c'est plutôt, on va dire, de l'ordre d'un facteur peut-être 100 à 1000, quoi, l'intensité du champ magnétique. Donc, on a des lois maintenant d'échelle, où on peut, en fonction du taux de rotation d'étoiles, remonter à une sorte d'amplitude moyenne du champ magnétique de l'étoile.
Et donc les 10 derniers millions d'années, où on peut penser que c'est la même époque, la même ère, c'est plus ou moins stable, c'est...
L'époque actuelle, elle est variée par deux choses qui sont la modulation du cycle et la rotation. Mais on pense que le Soleil au jour d'aujourd'hui, son magnétisme, au moins en tout cas de ce qu'on a pu voir des enregistrements historiques, est de l'ordre de à peu près le même niveau d'intensité qu'il y a 10 000 ans. Alors après, tout dépend de l'échelle de grandeur, donc tu me parles, si c'est 100 millions d'années, ça sera certainement différent, quoi. Mais bon, disons que si c'est quelques milliers d'années, à part une modulation, comme j'ai dit, une modulation alors, de 11 ans, de 100 ans, voire l'existence d'un grand minimum, bon, là, il y a quand même une chute importante de grand minimum.
Modulo ça, c'est assez
constant sur les échelles de milliers d'années, mais c'est pas constant sur les échelles de millions. Comme je l'ai montré, il y a à travers les carottages glaciaires. Alors pourquoi? Tu vois là, les rayons cosmiques qui viennent taper le haut de l'atmosphère, les rayons cosmiques, il y en a qui sont de sur, ils sont d'origine galactique, ils sont aussi d'origine solaire. Donc quand ils viennent taper le haut de l'atmosphère terrestre, ils créent déjà le Sternikov, on peut observer, donc on a une idée assez claire. Et ça crée des particules radioactives du beryllium 10 ou du carbone 14 qui sont capturées soit dans le carottage glaciaire à la glace, soit dans les arbres. Il y a une recirculation générale atmosphérique qui a tendance à émettre un peu partout. Mais bon, c'est sûr qu'au niveau des pôles, c'est pratique. C'est-à-dire qu'il y a plus de dépôts de glace, donc certainement là-dedans, la distribution en latitude de ces enrichissements de la glace. Et il y en a un peu partout, parce que par exemple, tu vois, le Japon, ils sont à assez basse latitude, et le carbone 14, dans les arbres très anciens, ils sont experts de ça, les Japonais, parce qu'ils ont beaucoup d'arbres très anciens, ils ont donc l'information. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme le cycle du Soleil varie, le cocon magnétique change de taille aussi, et est modulé par le cycle magnétique solaire. Et donc, le rayonnement cosmique qui vient de galactique, il est perturbé par ça. L'activité magnétique du Soleil, la spirale de Parker, les rayonnements cosmiques, la façon dont ils interagissent avec le vent magnétique de Chopin, solaire qui est magnétisé, aussi modifie. Donc la modulation de l'activité magnétique fait que les rayonnements cosmiques sont modulés et il y a une anticorrélation. Donc quand le Soleil est très actif, quand le champ magnétique est très intense, on a moins de rayonnements cosmiques. Quand le Soleil est moins actif, on a plus de rayonnements cosmiques. Et les rayons cosmiques interagissent plus avec le champ magnétique qui est plus intense, donc il y a un flux moins important.
Et donc il y a un enregistrement dans les végétaux, dans les glaces, mais pas dans les roches.
Alors dans les roches, c'est une bonne question, mais je ne crois pas.
Parce que les glaces, c'est limité en fait.
Et non, parce qu'en fait, avec les carottages glaciaires, on va très profondément. Mais bon, c'est sûr que c'est l'histoire de datation et de recueillement. Tu vois, ils remontent à quelques milliers d'années jusqu'à 10 000 ans. Alors sur le champ magnétique de la Terre, on a 1 milliard d'années de minimum d'enregistrement. On a des ressources. Donc, bien sûr, tu vas voir dans la Terre, dans le cadre de l'information, mais on a quand même. On arrive à monter jusqu'à 10 millions. Au-delà, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on pourrait distinguer la magnétisation due à des phénomènes magnétiques du Soleil par rapport à celle de la Terre. Quand même, localement, le champ magnétique terrestre est plus intense que celui. Soleil, tu vois. Donc, on parle de nano-Tesla pour le champ magnétique solaire proche de l'orbite terrestre. Or, le champ magnétique de la Terre, il est plutôt de l'ordre du micro-Tesla. Donc, on est quand même à un autre endroit. Et justement, j'ai parlé avec Claude, ils sont PI avec un petit niveau d'un satellite qui s'appelle SWARM. Et SWARM qui observe avec une très haute précision le champ magnétique terrestre. Il paraît qu'il y avait un autre satellite champ. Ça, ils ont été capables de distinguer les différentes sources de magnétisme. Et ce que je ne savais pas, moi, c'est que par exemple, l'océan qui est salé, conducteur, génère une dynamique avec un champ magnétique de l'ordre d'une nano-Tesla. Donc là, au niveau de la contribution océanique, c'est pas très loin des perturbations du champ magnétique solaire. Mais au niveau de la ionosphère, au niveau du champ géo, de la dynamo interne de la Terre, là, on a des valeurs qui sont beaucoup plus élevées. Et donc là, je pense que c'est quand même ça qui domine dans la crise, parce qu'il
parle même de champ magnétique crustal qui serait lié. Donc il y a quand même, je pense, des sources de champ magnétique plus intense sur Terre pour que ça se retrouve.
Et Mars, peut-être qu'il n'y a pas de champ magnétique.
Alors Mars a perdu son champ magnétique, je n'ai pas perdu. On a des traces, on a des rémanents. On a une zone sur Mars où on a encore du champ magnétique rémanent, et on a donc une sorte de mini-dôme magnétique à cet endroit-là. On pense que Mars a perdu sa dynamo après 1 milliard d'années à peu près.
Et du coup, on pourrait imaginer faire des mesures sur Mars qui soient peut-être beaucoup plus précises, puisqu'elle est moins protégée des.
Alors, les traces du vent solaire sur Mars, oui, je pense que. Comme sur la Lune, on l'a fait sur la Lune, ça, un peu. Sur Mars, je ne crois pas qu'on ait pu faire assez d'échantillonnage pour faire, mais oui, on a des traces de l'impact du vent solaire sur les surfaces des corps qui n'ont pas de magnétosphère. Avec une meilleure précision, oui, c'est certainement possible parce qu'on n'aura pas la perturbation de la planète, du champ planétaire, donc c'est possible, il faudrait voir, mais ça c'est une bonne question, je ne sais pas, je n'étant pas un expert de la détection de champ magnétique dans les roches, je ne peux pas vraiment te répondre. Mais peut-être que dans les canaux polaires glaciaires de Mars, on pourrait appliquer la même méthode que ce qu'on a fait sur Terre et essayer de voir si on peut faire une reconstruction du champ magnétique par des phénomènes comme ça. Alors la question que je me pose, c'est comme l'atmosphère de Mars est très diffuse, qu'est-ce qui se passe avec le rayonnement cosmique, qu'est-ce qui impacte directement la surface, il peut générer des étoiles. Il y a ce processus de conversion que je ne maîtrise pas suffisamment pour te répondre de façon exacte. Mais oui, c'est une bonne idée. On pourrait essayer de se poser des questions sur si on peut reconstruire ça.
J'ai vu des projets de voile solaire, effet bonding en personne, sont où?
Alors, les voiles solaires, j'en ai compris des discussions. Il s'avère que j'étais donc à Florence il y a longtemps, dans une conférence sur Solar Orbiter, Solar Probe, qui sont les deux grosses missions qui arrivent pour étudier le Soleil, dont Solar Probe qui va aller à l'intérieur de la zone d'Allen, justement du Soleil, pour essayer de comprendre la source d'accélération du vent, et Solar Orbiter qui va être très plus proche du Soleil que Mercure, et va se sortir du plan d'effectif pour voir les cornées polaires. Et j'avais assis à côté de moi des ingénieurs en chef de la NASA qui travaillent sur leur propre. Et qui avaient travaillé avant sur Messenger, le satellite qui a été autour de Mercure pendant très longtemps et qui s'est travaillé sur Mercure récemment. Et donc, ils me disaient qu'ils n'avaient jamais cru au soleil et qu'ils croyaient toujours, encore moins maintenant, parce qu'apparemment, les derniers développements montraient que la surface dont j'avais besoin pour pouvoir utiliser cette voile solaire était telle qu'on ne savait pas au jour d'aujourd'hui déployer une membrane aussi fine et aussi grande sans qu'il y ait des problèmes évidents de déchirement de la voile, de problèmes mécaniques. Le concept était élégant, mais que d'un point de vue d'ingénierie, c'était pas réaliste. Bon, c'était son point de vue à lui, hein, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui se disent que c'était un beau rêve, mais que ça marche pas. Bon, ce que je peux t'en dire, mais là encore une fois, je suis dans le principe, c'est une bonne idée. Bon.
Merci beaucoup à tous.